Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous. Donc, voilà, Philo nous a fait le plaisir de nous faire une petite entrée en matière. Ce sera donc pas lui ce soir, ce sera moi. Et donc, pour m'entourer pour ce podcast spécial Lionel Messi, je suis avec les habituels Mathieu, Omar et Piotr. Salut les gars.
Salut.
Salut. Bonsoir à tous.
Salut à tous.
Comment ça va? Qu'est-ce que Comment vous prenez cette arrivée? Ça vous fait quelque chose de bizarre?
C'est bizarre, Mathieu, parce que ça s'est fait très vite, mais respectons les traditions, Mathieu, vas-y.
Tu me prends au dépourvu, mais alors que c'est toi le semi-argentin du podcast. Mais non, évidemment, c'est quelque chose qu'elle ne s'attendait pas du tout. C'est en réalité presque impensable. Imaginez d'abord Messi changer de club et le voir qui plus est à Paris. Les délais dans lesquels cette transaction s'est conclue ont été hyper rapides, du moins pour les délais publics, on va dire. J'imagine que un transfert comme celui-là, ça ne s'est pas réglé en 4 jours et ça devait déjà négocier et discuter depuis plusieurs mois. Et pour le coup, tout le monde s'est retrouvé assez près au moment où le Barça a annoncé qu'il ne pouvait pas continuer l'aventure avec Messi. Et le PSG avait sans doute le dossier déjà bien entamé, bien avancé pour pouvoir le conclure. Mais malgré tout, nous, de l'extérieur, vu qu'on n'avait pas accès à ces informations en interne, on a été peut-être un peu pris de court. Et pourtant, peut-être 2 ou 3 heures après l'annonce, à partir du moment où ça a été confirmé par le Barça et que l'annonce de Marca a été confirmée par le Barça, qu'on a compris que ce n'était pas une stratégie ou un coup de bluff, c'est vite apparu comme une évidence que Messi allait venir à Paris, parce qu'il y a les moyens, il y a les ambitions, il y a un environnement latin avec... le staff technique et les joueurs dont certains sont proches de Messi. Il y a aussi une ville qui est plutôt pas mal comme cadre de vie pour une famille avec des jeunes enfants par rapport à l'Angleterre. Donc tous ces éléments ont vite montré que ce qui était impensable allait être finalement une évidence. Et que Messi allait rejoindre le PSG et les délais ont été encore une fois très courts. On parle de jeudi soir d'une annonce et le mardi l'officialisation. Donc ça a été vraiment très précipité, très rapide. Rien à voir avec le feuilleton Neymar qui s'était étiré sur 3 semaines à moi à l'époque. Et malgré tout, je pense que c'est ce qui garde l'excitation et c'est la stupéfaction au plus haut. C'est la façon dont les événements sont précipités. On n'a presque pas le temps de réaliser et peut-être qu'on le réalisera au fur et à mesure. En fait, des entraînements, des matchs, des ballons qu'il va toucher. Déjà, le voir au Parc des Princes, la présentation samedi, ça... Peut-être que ça, on commencera un peu à assimiler le transfert qui est hors norme et hors catégorie, quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer avant cette folle semaine dernière. Donc non, c'est un peu comme tout le monde, très stupéfait, émerveillé. À vrai dire, Messi, c'était un rêve qu'on n'osait même pas faire. C'est un joueur qui semblait assez attaché à vie au Barça et qu'on ne verrait qu'à ce club-là. Mais bon, il y a des circonstances qui se présentent. Des difficultés financières de la part du club catalan, des normes et des règlements à respecter du côté de la Liga, donc, qui ont rendu cette arrivée possible. Et voilà, maintenant Messi est au PSG, il faudra s'y faire, et voilà, on a hâte de le voir toucher un ballon, on a hâte de le voir sous ce maillot. Et bon, je pense qu'il y a suffisamment de gens en Europe qui sont dégoûtés et écœurés par ce transfert pour que nous, côté parisien, on ne soit pas complètement aux anges et excités à l'idée de le voir. Ça paraît presque impensable de se dire que c'est un pan entier de l'histoire du foot qui va jouer au Parc et qui va jouer sous le maillot du PSG. Donc voilà, on est tous très excités maintenant sur cette perspective.
Toi, Piotr, c'est quoi ton sentiment? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir Messi qui débarque au parc?
On réalise pas encore tout à fait, mais Mathieu l'a dit, il y avait une espèce d'évidence, c'est-à-dire que si Messi en venait à quitter le Barça ces années-là, parce que déjà l'année dernière, avec l'histoire du bureau fax, ça avait jeté un grand froid où on voyait le clan Messi essayer d'utiliser une des clauses du contrat pour essayer de partir avant la fin de son contrat, donc c'était en 2020. Il avait continué au Barça et on pensait que ça allait un peu se calmer et que les choses allaient mieux entre le FC Barcelone et le clan Messi. Et arrive l'information comme quoi ça va être très compliqué pour le Barça d'inscrire des nouveaux joueurs et de prolonger le contrat de Messi, même si les échos étaient plutôt positifs sur le fait qu'il puisse renouveler dans le club catalan. Alors certes, le Barça avait un surendettement et une masse salariale beaucoup trop élevée par rapport au règlement en vigueur en Espagne. Et personnellement, un peu à l'instar du FPF qui a légèrement explosé, en tout cas qui n'est plus vraiment actif dans sa forme actuelle due à la pandémie, je pensais vraiment que la Liga allait se coucher, que Tebas et le Barça allaient tomber d'accord et que Messi serait évidemment prolongé, même si d'un point de vue un peu éthique et magouille dans le football, voilà, ça aurait été un épisode pas mal. Mais bon, on imaginait difficilement l'Espagne se séparer de son meilleur joueur. Eh bien, ça n'a pas été possible. Cette fois, le Barça n'a pas pu faire ce qu'il voulait, et paraît-il en plus que l'ancienne direction avait laissé un bilan bien pire que ce que la nouvelle escomptait trouver. Donc voilà, Messi ne peut pas aller au Barça. Il y a quand même des éléments, notamment dans la vitesse à laquelle ça s'est fait, vu que on se rappelle, le feuilleton Neymar, ça avait été... globalement, on avait été en apnée pendant un mois entre le tweet de Marcelo Bechler et le moment où, enfin, on sait que c'est bon, c'est sûr, il va pouvoir signer au PSG. Ça a été assez, assez invivable. Hein. C'était, enfin, en tout cas, d'un point de vue tension nerveuse, suspense, c'était très compliqué. Là, c'était vraiment... bon, bah, il ne peut pas prolonger au Barça. Du coup, le seul club à même de l'accueillir, vu que City avait... apparemment dans l'idée d'investir plutôt dans d'autres joueurs et n'était pas plus proche du joueur que ça. Le PSG était la seule solution pour Messi et globalement, c'était soit le PSG, soit il prenait une année sabbatique. Vu que là, globalement, il arrive à un tournant de sa carrière. Il a enfin gagné un trophée avec l'Argentine cet été. Il arrive en fin de contrat au Barça. Moi, perso, ça ne m'aurait pas étonné qu'il s'arrête un an et qu'il choisisse un club l'année suivante. Donc le PSG a été capable de l'accueillir dès cette année. Le joueur a l'air très enthousiaste à l'idée de changer d'air, d'arriver dans un groupe avec beaucoup de joueurs qu'il connaît, beaucoup de joueurs qu'il apprécie, avec un coach argentin qui est réputé pour ne pas froisser les stars, être plutôt bonne patte. Et forcément, ça facilite un peu la connexion entre le staff technique et le joueur. Donc pour l'instant, il y a un petit côté conte de fées qui s'est mis en route et globalement très très impatient de voir ce que ça peut donner sur le terrain, et il faut bien prendre conscience, parce que on s'en rend compte mais pas vraiment, que le monde du football plus que jamais va tourner autour du PSG la saison prochaine, et c'est la première fois que ça arrive malgré le fait qu'on soit un club important en Europe depuis un moment. Mais même l'arrivée de Neymar provoquait pas autant de choses. Alors certes, c'était déjà incroyable et ça reste le plus gros transfert de l'histoire. Mais là, Messi au PSG, c'est littéralement la planète entière qui va avoir les yeux rivés sur le club en permanence, toute l'année, en tout cas, dès qu'il sera disponible. Donc voilà, c'est quelque chose d'absolument colossal. Et bravo au PSG, et bravo à tous ceux qui ont été impliqués d'avoir rendu ça possible.
Omar, t'es d'accord avec Simon sur le fait qu'il y avait, une fois que c'était pas possible de prolonger avec le Barça, il y avait plus que deux options possibles pour Lionel Messi, qui était soit de signer au PSG, soit de carrément arrêter le foot pendant un petit moment.
Ouais, je suis totalement d'accord avec ça, et en effet, bon, c'est un moment qu'on doit savourer. Il a un parfum particulier, c'est un moment qu'on accueille avec plaisir et bien sûr avec quelque part aussi un peu d'orgueil, parce que bah, c'est le seul endroit au monde où ça se pouvait se produire. Hein,
bien on, sûr, nous demande sur, on nous demande un peu sur le live si le fait que Grealish ait signé à City ait fermé la porte de Messi. Est-ce que vous pensez est-ce que tu penses, Omar, que City aurait été dans la course même si Grealish n'avait pas signé?
J'y crois pas une seconde. Pour moi, il y avait, il y avait qu'à Paris que ça pouvait se produire parce qu'il y a trop de choses qui croisent les velléités d'un joueur de 34 ans pour sa dernière étape et il faut qu'elle soit grande, donc il faut qu'il soit entouré de gens qu'il aime dans un cadre qui est bien plus favorable que de vivre à Manchester. Il n'y avait qu'une raison qui aurait pu le pousser d'aller à Manchester, c'était le staff technique. Guardiola et j'oublie à chaque fois le nom de son ami qui a la direction sportive.
Bergerstein.
Bergerstein, exactement. Je pense pas que ça puisse être une raison suffisante, un argument suffisamment solide par rapport à Paris, par rapport au parc, par rapport à l'ambition, par rapport aux émoluments qui lui seront offerts maintenant et probablement dans le futur. Et non, c'est une signature qui tombe sous le sens. Ces deux étoiles qui se croisent, hein, ça fait une espèce de collision, et maintenant il faut se rendre compte de ce que c'est d'accueillir Messi, de vivre avec Messi, et de quel joueur aussi on se dote. Et ça, c'est là où c'est encore le plus intéressant à mon sens, au-delà de l'aspect très historique du fait qu'un joueur totalement totem et emblème puisse porter un autre maillot. Il y a ce qu'est Messi, et ça, effectivement, c'est ce qui va nous animer pendant les prochaines semaines et prochaines années.
On l'a vu avec l'excitation qui a accompagné ce transfert. Des gens, dès lundi, à l'aéroport, devant la clinique, devant la factory au cas où, alors qu'il n'y a même pas encore l'information qu'il allait quitter Barcelone, je veux dire son lieu de vie, pour voyager directement à Paris. C'était pas encore confirmé que l'accord était total, et tu avais déjà pourtant cette excitation. Quand tu repenses qu'il y a 3-4 mois, des présidents ont voulu nous expliquer que le foot n'intéressait plus les jeunes, que maintenant tout était. Enfin, on s'intéressait plus à Fortnite, etc. J'aimerais bien savoir si un jour un streamer aura un accueil de ce genre, mais si ça reste l'une des rares personnes au monde capable de déplacer des personnes à ce point et faire vaciller autant les sentiments à travers le monde. Parce que côté Paris, il y a l'espoir, l'excitation. Côté Barcelone, il y a la désolation et le désespoir. Partout ailleurs, il y a la curiosité et l'impatience de voir ce que ça va donner. Parce qu'il y avait toujours cette idée de se dire, Messi, c'est Barcelone, mais qu'est-ce que ça peut donner dans un autre club? Pas dans le sens où on douterait de ses performances, mais dans le sens où est-ce qu'il prendra un jour l'option d'aller voir ailleurs, de prendre un autre, de porter un nouveau maillot? Et c'est cette option qu'il a, malgré lui, décidé et choisi, en l'occurrence le PSG. Et bon, voilà, c'est l'accueil des gens, la façon dont il a été porté lors de sa présentation. Tu vois que c'est un joueur d'une dimension très très spéciale, et tant qu'il y aura des Messi, le jeu et le football continuera à se bien porter, parce que l'excitation et la popularité de jeu restera à son sommet. Et c'est l'un des joueurs qui font la popularité de jeu. Donc non, la façon dont il a été accueilli, le nombre de personnes qui ont été mobilisées et qui sont déplacées, enfin, je pense que ça dit tout. Hein.
Est-ce que vous pensez que Piotr, par exemple, tu penses que Messi, outre toute considération financière, a fait un bon choix de carrière?
Ouais, forcément. PSG est une équipe. C'est un projet qui compte depuis plusieurs années en Europe, mais là, c'est surtout un projet qui, malgré toutes les critiques adressées, soit à l'état de l'effectif, soit un peu au projet sportif au global, d'un point de vue terrain, je veux dire. Tu sors quand même d'une finale de Ligue des Champions il y a deux saisons, d'une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Du coup, c'est pas du tout illogique pour Messi de se dire que. L'âge venant aussi, il peut aller se frotter un championnat moins relevé au global qu'en Espagne, même si la Liga avait perdu de sa superbe par rapport au début des années 2010, tout en essayant de gagner une Champions League qui n'a pas gagné depuis 2015 et que le PSG n'a jamais gagné. Donc globalement, tu joues un peu l'utile à l'agréable avec forcément le cadre parisien qui est extraordinaire. L'équipe parisienne remplie de talents et les objectifs sportifs qui sont pas juste de l'ordre du commun pour un grand club. Là, c'est vraiment le club doit écrire son histoire, tout à construire ou presque. Donc globalement, ceux qui seront les premiers à donner la Ligue des Champions au PSG seront quelque part dans la légende du club, dans la légende du foot français, voire du foot européen, selon comment ça se passe. Donc globalement, ils ne pouvaient pas rêver mieux. Après, si Manchester City, c'est un peu la même chose. Sauf que eux, ils ont déjà... ils ont déjà un projet établi qui dure depuis longtemps, depuis l'arrivée de Pep Guardiola, d'un point de vue sportif en tout cas. Ils ont joué leur première finale de Ligue des Champions qu'ils ont perdu aussi, comme le PSG. Sauf que, bon, globalement, le PSG avait l'air beaucoup plus proche du joueur et du clan Messi. Beaucoup plus de joueurs côté parisien qui connaissent Messi et qui sont à même de le convaincre. Et puis, mine de rien, même si on adresse des critiques, il y a aussi beaucoup de joueurs d'un immense niveau. Il n'y a qu'à voir les vidéos de l'entraînement du jour. Je pense que Messi, il n'avait pas vécu un entraînement de ce niveau-là techniquement depuis des années, depuis 2015, 2016 ou 2017. Donc non, je pense qu'il est au bon endroit et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en tout cas d'un point de vue sportif.
Omar, c'est un sentiment que tu partages. Tu penses que au-delà de tout ça, Messi a bien fait de venir et qu'il est là pour briller encore plus, c'est ce qu'il peut déjà faire.
Oui, oui, bien sûr. Alors, briller encore plus que ce qu'il a déjà fait, je ne sais pas, parce que ses accomplissements depuis 15 ans sont tellement irréels que ça va être beaucoup, très difficile de faire beaucoup mieux que ce qu'il a déjà fait. Mais par contre, faut jamais sous-estimer le cœur et l'orgueil d'un champion. Le fait qu'il se retrouve dans un groupe et dans un collectif qui n'a pas encore décroché le Graal et que lui soit en manque de ça depuis quasiment 7 ans désormais, peut faire que sur une courte période, il y a quelque chose qui clique et que l'aventure collective te permette de décrocher la C1 qui est plus qu'un objectif du club, qui est le rêve et la mantra de l'actionnaire depuis une dizaine d'années, et qui maintenant, en ayant décroché la signature du meilleur joueur du monde, devient une obligation à très court terme pour le staff technique. Donc je dirais que 50% de ce qu'a pu faire Messi ces 10 dernières années, c'est un saut de qualité tellement élevé que forcément ça te rapproche d'une espèce de plénitude. Mais derrière, il y a aussi, je pense, d'autres choses à envisager. Et Messi, c'est pas qu'un joueur, c'est aussi une responsabilité. Donc gagner, certes, mais il y a un chemin à emprunter pour ça. Et je pense qu'il va falloir qu'on en parle aussi.
Pour rester sur un peu son arrivée et le pouls de son arrivée, qu'est-ce que vous avez pensé des larmes, on va dire, de Messi lors de sa conférence de presse à Barcelone par rapport au sourire qu'il a pu afficher aux côtés de Nasser El Khelaifi hier? Pour vous, est-ce que c'est le signe que même s'il ne souhaitait pas partir de Barcelone, il a quand même... il a quand même un beau projet qui se présente à lui et qui a l'air fondamentalement content de rejoindre le PSG, Mathieu?
Je pense que tu peux douter ni d'une émotion ni de l'autre, en fait. C'est-à-dire que Messi soit triste et le cœur un peu gros à l'idée de quitter Barcelone ou qu'il a rejoint quoi, 12 ans, 11 ans, 11 ans, 12 ans.
13 ans.
Ouais, c'est ça. Donc c'est une vie quasiment entière pour lui. Changer de continent, changer de vie et presque changer de culture aussi. Je ne peux pas douter du fait qu'après 20 ans là-bas, il y ait un choc et une brutalité de la séparation. Et tu ne peux pas non plus douter qu'il y ait aussi l'excitation de sa part à l'idée de rejoindre un autre projet. Je pense que Simon a mis le doigt sur quelque chose d'important, et même Omar. On dit que Messi n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 6 ans, mais en fait, il n'a même pas été compétitif en Ligue des Champions depuis 4-5 ans. En fait. Si tu regardes 2017, élimination avec un 3-0 face à la Juve, et le tour d'avant face à Paris, bon, on se rappelle des circonstances, mais 4-0 aussi à l'aller. 2018, élimination par la Roma. 2019, la remontée d'Anfield. 2020, le 8-2 face au Bayern. Et cette année, un 4-1 chez soi face à Paris. Donc ça fait des années qu'ils sont même plus compétitifs en Ligue des Champions. que l'effectif du Barça s'est peu à peu appauvri à la suite des départs et des fins de cycle de joueurs qui sont impossibles à remplacer en soi et qui ont fait l'histoire de ce club et du football en général. Et à Paris, ils retrouvent un autre projet avec une équipe meilleure, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'arrogance d'orgueil mal placé en le disant. Meilleure qualité technique, des profils qu'il avait de moins en moins, voire qu'il n'avait quasiment plus à Barcelone. On entrera dans les détails tout à l'heure, mais Hakimi, il avait plus profil d'arrière-droit depuis le départ d'Alves. Neymar, évidemment, qui n'avait pas un Mbappé, un joueur rapide, capable de prendre la profondeur et de concrétiser ses passes. Il n'avait plus ça à Barcelone depuis la fin un peu de carrière de Suarez, et moi-même, si tu remontes à Eto'o. Donc, il y a beaucoup de Verratti aussi, évidemment. Ils n'ont plus cet organisateur à la Xavi qu'ils avaient à l'époque. Donc, il y a beaucoup d'éléments que Messi peut retrouver et qui peuvent le satisfaire d'un point de vue sportif. Après, surtout l'extra-sportif, là encore, Paris cochait les cases, à la fois le cadre de vie et puis le fait qu'il y ait de ses amis et de ses proches même dans le vestiaire. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'adaptation et l'atterrissage, on va dire, de Messi à Paris va se faire sans trop d'encombre, et on n'aura plus qu'à profiter vraiment sur le terrain et en espérant que les connexions se fassent. Mais de son point de vue à lui, je pense que c'est assez excitant, parce que si t'es fan du Barça, t'es sans doute triste et voire dévasté d'un départ. Si t'es fan de Messi, si t'es argentin, bah d'ailleurs ça se voit un peu sur les commentaires qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, un peu l'excitation de revoir Messi dans une équipe qui peut vraiment le soutenir, qui peut vraiment l'accompagner, qui peut vraiment le mettre en valeur pour pouvoir, pourquoi pas, gagner la Ligue des Champions, parce que ça fait 3 ou 4 ans qu'ils ne sont plus dans le coup, et que pour les 2 années à venir, le Barça n'allait pas pouvoir proposer un projet à Messi de pouvoir gagner la Ligue des Champions.
Est-ce qu'il y a un autre club, vous pensez, qui aurait pu lui proposer un projet intéressant ?
C'était City, forcément, pour des raisons... ne serait-ce que financière, s'offrir Messi, même libre de tout contrat, c'est pas gratuit. Proposer un cadre de vie, un cadre sportif à Messi qui puisse lui convenir. Et alors certes, ça aurait été très très compliqué, voire impossible pour lui de prolonger au Barça, mais pour vraiment le convaincre de directement rejoindre une autre écurie, je pense qu'il faut un peu mieux que le Lancashire. Donc globalement, on faisait un peu la course seule. Hein. C'est ce genre de joueur, de profil, en fait, où tant pour des raisons sportives, personnelles et financières, il n'y a que le PSG qui peut offrir ce genre de conditions, et ça a été le cas pour d'autres joueurs. Globalement, Neymar, la Première Ligue, il voulait pas en entendre parler en 2017 lorsqu'il s'est mis en tête de quitter le Barça, c'était que le PSG. Sergio Ramos, évidemment, en partant de son club historique, il voulait pas entendre parler d'un autre club que le PSG. On peut même parler de Kylian Mbappé qui, lorsque il a bien vu que Monaco ne le ferait pas vraiment partir au Real Madrid et que c'était trop tôt pour lui, le clan Mbappé a autant contacté le PSG que le PSG avait pris contact avec le clan Mbappé, et c'était pari ou rien. Donc globalement,
on nous propose Chelsea.
Moi j'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Je pense vraiment que le PSG réunissait trop de facteurs importants pour Messi, et globalement, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute, ni l'ombre d'une rumeur un peu sérieuse, même si paraît-il que City ou Chelsea l'avaient dans un coin de la tête. Mais on disait déjà ça à l'époque de Neymar, que certes, le PSG était engagé dans une aventure pour tenter de signer la star brésilienne. Globalement, pas tous les jours, mais régulièrement, on nous sortait, oui, tel club anglais se joint à la lutte. C'était du flan, en fait. Donc non, je pense qu'il n'y a que le PSG qui peut convaincre ce genre de star de quitter leur club d'origine. Et ça correspond aussi à des fins de cycle, parce que Ramos, qui part du Real, le Real est pas du tout dans le même état et la même plénitude sportive qu'il était il y a quelques années. Le Barça, on en parle, c'était une décadence pratiquement à tous les niveaux. Alors, ils ne sont pas ridicules non plus. Ils vont jamais finir 7e de Liga. Mais bon, tu regardes l'état d'effectif, l'état des finances, l'état du stade, l'état peut-être même de la tifoseria. Il y a beaucoup de problèmes dans ce club. Et bon, je pense que malgré tout, même si le PSG reste un cadre très particulier et qui peut être parfois un peu difficile à appréhender, à s'habituer pour les joueurs, bon, globalement, on offre des conditions à tous les niveaux qui sont imbattables.
Et alors le fait que Paris se retrouve finalement seul au monde pour recruter Messi, est-ce que pour vous, et on va passer sur le second thème, ça représente le plus grand accomplissement de QSI à la tête de Paris sur sa clôt, ces 10 années? Est-ce que pour vous, c'est plus une suite logique, ou alors c'est vraiment un exploit d'avoir réussi à recruter Messi? Omar?
Bah, il y a deux choses. C'est que je nie rien de l'ongle de choc que représente le recrutement de Messi, mais il y a quand même un aspect très inéluctable qui a été présenté aussi bien par Mathieu que par Simon. C'est vrai que ça arrive au bout d'un actionnariat qui dure depuis 10 ans, et surtout le travail, en fait, c'est d'avoir rendu cette option crédible et évidente aux yeux du monde entier, parce que aussitôt l'annonce de la non-officialisation de Messi, enfin, je pense que 80% des gens savaient que s'il continuait à jouer à un niveau compétitif, ce serait à Paris et pas ailleurs, parce que ben, désormais, Paris, en plus d'être un endroit où effectivement les salaires sont excellents, y a aussi désormais une compétitivité qui est établie à l'échelle européenne aussi. Et ça, c'est à mettre au crédit des différentes staffs techniques qui se sont succédées et du management du club aussi, même s'il y a... Il y a des choses à revoir, et on peut bien sûr améliorer quantité de choses, mais désormais, Paris est sur la carte, est une table crédible, est une place crédible, pardon, et on s'est invité à la table des barons, et on a des moyens qu'aujourd'hui, en plus dans la période que l'on traverse, qui sont sans commune mesure comparativement aux autres top clubs européens. Donc, pour moi, le plus grand accomplissement de sous QSI sera forcément collectif, mais vraiment, là, on est en train de parler de la crème de la crème, donc je me rends compte aussi de l'aspect très historique de cette opération, mais si je dois raisonner dans mon petit cœur, ce sera plus grand quand la C1 sera dans l'armoire à trophées.
Ouais, mais alors pour le moment, on n'a pas encore la C1, justement. Mais si on compare justement par rapport à 2017, enfin bon, on va commencer 2013, il y a Ibra et Silva qui signent. 2017, on fait Neymar, Mbappé. Est-ce que c'est pas plus gros finalement? Et c'est en plus ce qui nous permet derrière les résultats qu'on connaît, mine de rien. Est-ce que c'est pas plus gros que cette arrivée de Messi quasi inéluctable, Mathieu?
Pareil, c'est un bon débat. Je pense que chacun des étés que tu as mentionnés, 2012, 2017 et 2021, marque une autre étape et un peu en crescendo. Donc, c'est difficile d'établir un classement, parce que...
Mais t'as pas l'étape avec Ben Arfa aussi. Mais...
mais en fait, t'as pas l'étape Messi si t'as pas avant l'étape Neymar, et t'as pas l'étape Neymar si t'as pas avant l'étape Ibra, Thiago Silva. C'est un peu un crescendo, et ça a monté comme ça, en fait, les 10 années sous QSI. Ça a commencé avec... Pastore, que Leonardo devait harceler de son propre aveu tous les jours pour le convaincre de choisir le PSG plutôt que d'aller à Chelsea, jusqu'à cet été où tu te retrouves avec Ramos et Messi qui voient comme seule option et crédible à leurs yeux pour à la fois continuer leur train de vie et garder les mêmes ambitions que celles qui les ont animées depuis 15 ans, que d'aller au PSG. Donc tu vois bien l'évolution et la trajectoire qui a été celle de ce club en 10 ans. Donc évidemment, les moyens ont beaucoup aidé. Il y a quand même des choix astucieux sur le plan sportif et marketing aussi qui ont permis de rendre crédible un projet qui, à la base, a quelques points faibles structurels comme le championnat dans lequel on évolue, le manque de prestige du club par rapport à d'autres clubs historiques nés avant le PSG. Et malgré tout malgré ce qui peut apparaître comme des handicaps, on est capable d'attirer ce type de joueurs. Et je pense que la pandémie renforce un peu ça, parce qu'aujourd'hui, pour des joueurs comme Van Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, Messi, Ramos, s'ils veulent à la fois continuer avec les mêmes ambitions que celles qu'ils avaient avant en club et continuer avec les mêmes émoluments, en réalité, il n'y a pas 36 options. Hein. Il y a le PSG et 2-3 clubs anglais de haut rang comme United City et Chelsea. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, quasiment les autres gros clubs historiques installés souffrent de la période actuelle et ne sont pas en mesure de réaliser ce type de transfert, que ce soit le Bayern, que ce soit la Juve, que ce soit le Real, que ce soit le Barça. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai que ça s'est vite imposé comme l'évidence, mais aussi comme l'aboutissement d'un certain processus. Après, pour la comparaison avec la C1, c'est sûr que rien ne remplacera sportivement la C1. Maintenant, il ne faut pas non plus mesurer, enfin, sous-évaluer le poids que représente une arrivée de Messi en termes évidemment d'apport sportif immédiat sur le terrain, en termes d'attractivité envers de nouveaux joueurs, envers des marques, et aussi envers des supporters. Et ça, c'est très important. De se dire que on est tous d'une génération où, globalement, tous ceux qu'on croisait en Ile-de-France quand on était petit n'étaient pas tous supporters du PSG. Là, tu peux imaginer qu'en Ile-de-France, en France, des gamins qui ont aujourd'hui 4, 5, 6, 7 ans vont grandir en devenant supporters du PSG parce qu'ils vont rêver devant ces joueurs-là. Et souvent, s'il n'y a pas de transmission familiale, tu deviens supporter d'un club via des joueurs. Et pour cette raison, pour cette raison aussi, l'arrivée de Messi, c'est une révolution et un tremblement de terre qui participe de la croissance du club et pour les années à venir.
Piotr, toi aussi, tu penses que une arrivée de Messi à 34 ans et Ramos, c'est quoi? C'est 35
ouais.
Est-ce que pour toi aussi, c'est plus gros encore que Mbappé à 17 et Neymar à 25?
Je sais pas. Je pense que, bah, comme beaucoup, je manque un peu de recul. Il faut qu'on digère bien et qu'on voit ce que ça donne. Mais peut-être que Neymar, c'est plus gros parce que le Barça paraissait encore assez intouchable à l'époque, même s'ils étaient moins forts qu'en 2015. PSG sortait d'une saison très compliquée par rapport à celle d'avant. Il y avait un côté revanche encore plus grand. Beaucoup de plaies étaient ouvertes. PSG se cherchait beaucoup. Savait pas exactement où aller, mais cherchait sa star. Peut-être que Neymar, c'est plus gros pour ça, et aussi parce que, mine de rien, c'est, à mon avis, ça va le rester un bon moment, voire peut-être pour toujours, hein, en tout cas, tant qu'on est là pour voir ça, le plus gros transfert de l'histoire. Je ne sais pas si c'est plus gros Messi que Neymar. Par contre, Messi est un joueur plus connu que Neymar, qui représente plus de choses et qui est considéré par beaucoup, je ne crois pas que ce soit le cas ici, mais comme le meilleur joueur de tous les temps. Donc forcément, ouais, forcément, c'est peut-être plus gros Messi. Après, je ne suis pas certain de ça. En tout cas, bon, il n'y a pas à chipoter. Tu prends Neymar en 2017 et Messi en 2021. C'est les deux fois où le club a frappé un immense coup au niveau européen, au niveau mondial, et où globalement, tu gagnes en importance, tu gagnes en prestige, tu gagnes en respect. À part quelques Anglais vraiment aigris et qui, globalement, ont toujours méprisé le foot français, tout le monde est en admiration devant
les Espagnols de l'UPAC.
Le PSG. Ouais, mais eux, que les Catalans, le reste de l'Espagne, je pense qu'ils n'ont royalement rien à faire que le Barça de couler. Après, bon, ils vont manger leur pain noir et ça arrive à d'autres championnats, ça arrivera à d'autres. Ils retrouveront un peu de leur superbe plus tard. Mais globalement, le PSG est en train de gagner un respect, un prestige et une désirabilité qui n'était pas le cas auparavant. On était un peu juste le club des entre guillemets nouveaux riches qui cassent les pieds des autres, mais qui globalement ne sera jamais au niveau des autres, tant pour des raisons d'ancienneté, de légitimité, d'institution, de moyens, vu que évidemment nous on était très très limités certaines années par le FPF, là où d'autres clubs s'étaient gavés les années précédentes. Bon, là c'est en train de changer, et globalement, certes le PSG est encore jeune et forcément l'histoire ne s'achète pas, et le temps qui donne du cachet, de la patine et de l'importance aux choses, il en faut. Mais là, le PSG est clairement peut-être le plus grand club du monde à l'heure actuelle.
Vous pensez que c'est sur quel point que le PSG a, et on va dire QSI PSG, a le plus gagné avec cette arrivée de Messi? Est-ce que c'est sportivement? Est-ce que c'est financièrement? Est-ce que c'est au niveau du rayonnement international, de l'image du club, de l'influence qu'il peut avoir sur la scène mondiale. Enfin...
Pour l'instant, c'est que de la com et de l'image, vu que la saison a à peine débuté. Il faudra bien voir ce que seront les débouchés économiques et surtout sportifs. Le projet que tu peux monter sportivement, bon, même s'il n'y a pas d'inquiétude à avoir globalement, mais si, bon, voilà, c'est 50 buts par an, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de souci à se faire, très peu blessé en plus. Là, évidemment, pour l'instant, tu gagnes du prestige, tu gagnes tu intéresses, enfin, beaucoup de gens qui s'intéressent de loin au football, mais qui connaissent quand même Messi, Ronaldo, Mbappé et les autres, ont les yeux braqués sur le PSG depuis plusieurs jours. Forcément, ça c'est immédiat, ça c'est tout de suite et ça va marquer l'histoire. Après, pour le reste, il n'y a que le temps qui nous dira ce qu'il en sera.
Omar, tu as un avis là-dessus ? Tu penses
Ouais, la réponse sportive, c'est toujours ce qu'on a en dernier lieu et c'est celle qui nous intéresse le plus.
Ouais, après, mais là, ça dépasse l'aspect sportif quand même, Messi, vous êtes d'accord que...
Bien sûr, et Nasser, on a parlé directement en conf de presse. Enfin, il faut voir l'impact sur les réseaux sociaux, j'imagine, l'affluence au parc, sur les partenaires commerciaux, sur le recrutement de nouveaux supporters dont parlait fort justement Mathieu tout à l'heure. Enfin, l'onde de choc, elle est égale aux accomplissements qu'a eu Messi lors des 15 dernières années. Enfin, c'est l'un des deux joueurs qui a le plus polarisé l'attention mondiale sur ce sport. Il va exercer au PSG forcément tout ce qui est près ou loin du club va fortement cranter et c'est sûr que il y aura un avant et un après Messi, quoi.
Après, je pense que tu ne dois pas sous-évaluer et sous-estimer le niveau de haine et de ressentiment que suscite un tel transfert en Espagne, en Italie et dans les pays qui sont très marqués par le projet de Super League, qui sont les anciennes grandes puissances du football de club et qui voient aujourd'hui leur club entrer un peu en décadence, ou du moins qui voient le PSG faire ce que eux faisaient avant, en fait. Et avec beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui, en appeler au fair play financier, à une régulation, à ce que des gens bloquent, à ce que la FIFA bloque ce transfert, etc. En oubliant que globalement, ils ont construit leur prestige et leur renommée exactement de la même façon, c'est-à-dire en alignant l'échec et en faisant venir les meilleurs joueurs du monde. Donc, je dirais que c'est aussi un transfert qui crée beaucoup de ressentiment, d'envie et de haine même du côté de nos pays voisins, et c'est pas forcément à négliger, parce que globalement, je pense que le PSG, tous les matchs qu'on jouera l'an prochain, notamment en Ligue des Champions, tu joueras contre l'équipe adverse, supportée par ses supporters, aussi supportée par globalement tous les neutres, on va dire, en Europe du moins. Parce que je pense qu'en Amérique du Sud, pour le coup, on fait le plein et on a beaucoup de soutien maintenant, mais globalement, tout le monde va se ranger derrière les adversaires du PSG, parce que on est vu comme l'équipe qui a fait un mercato surréaliste et irréel, impensable en l'état. Donc,
je pense quand même avoir tous les Léobots avec nous aussi.
C'est peut-être, ouais, mais pas forcément les Catalans, je pense. Mais je pense qu'ils sont même prêts à supporter le Real si jamais on les croise. Mais bon, c'est comme ça. Ça a toujours été un peu dans l'ADN du PSG d'avoir beaucoup de monde contre soi à la base. Après tout, je pense que le PSG fait rien de plus que ce que tous les autres gros clubs ont fait dans leur histoire. Et voilà, après, il y a des questions de cycle. Bah, je trouve que l'Espagne a ultra dominé l'Europe du foot de 2008 à 2018, grosso modo, en laissant quasiment rien aux autres. Parce que même les Europa League, il est gagné avec Séville ou l'Atlético. Voilà, maintenant, ils vont manger un peu leur pain noir, parce que tous les joueurs qu'ils ont eu durant ces 10 ans sont pas éternels. Et forcément, quand tu les remplaces par moins bon, parce que ça n'existe pas un joueur meilleur que Xavi, ça n'existe pas un joueur meilleur que Iniesta, ça n'existe pas un joueur meilleur que Xabi Alonso au milieu, que Cristiano Ronaldo devant, évidemment, etc. etc. Donc voilà, c'est une histoire de cycle. Aujourd'hui, Paris prend un peu cette place devant ses anciens clubs qui, bon, ils doivent trouver des parades maintenant. C'est s'accrocher à la Super League et essayer de voir comment réguler à nouveau le football européen pour se sauver. Mais bon, je pense que le train est quand même bien passé.
Vous pensez que Paris entre la, son comportement vis-à-vis de la Super League et le fait de recruter Messi et de garder des joueurs comme Mbappé ou Neymar, même si bon, Mbappé, c'est pas fini. Finalement, tue dans l'œuf le projet de Super League durablement. Omar, par exemple.
C'est une question difficile.
Est-ce que ce serait pas justement le plus grand accomplissement de QSI
de tuer la Super League? Ah, ça, ouais. C'est clair que c'est quelque chose d'immense. Ouais, incontestablement, là, sans être naïf ni forcément dogmatique. Enfin, on a eu la bonne posture et la posture populaire qui a été prise par les Anglais. On a bien fait de s'y inscrire parce que si je suis ce que dit Mathieu, effectivement, la jauge de haine est à son summum à notre rencontre. Si en plus en avril dernier on s'était associé à ce vil projet, qu'est-ce que ça aurait été? Donc non, je pense que Paris s'est toujours nourri de l'animosité régionale. Enfin, régionale, c'est dès que ça dépassait le périph, hein, il fut un temps. Maintenant, elle est continentale. C'est sûr que à s'adjoindre Messi, ça te donne la responsabilité de gagner et que tout le monde attend la sortie de route et que on manquera pas à nous rappeler si demain au printemps prochain on n'est pas champion d'Europe à Saint-Pétersbourg, que en ayant monté une super team, pour reprendre un terme du basket, ben on aura encore fait une sortie de route, parce que c'est ce qu'on nous dit ben tous les étés depuis quasiment 10 ans désormais. Donc là maintenant c'est juste notre quotidien, quoi. Mais à côté de ça, voilà, Paris va remplir tous les stades de France et d'Europe, va surtout en fait offrir et chérir le rêve de millions de gamins, parce que désormais le parc c'est l'endroit où tout va être possible, quoi. Je suis totalement aligné avec ce que disait Mathieu tout à l'heure pour des enfants de par le monde qui viennent à ce sport ou qui sont juste amoureux du jeu, se dire qu'on va pouvoir aligner semaine après semaine les joueurs offensifs qu'on va pouvoir aligner, c'est super exaltant, quoi.
Alors justement, comment vous voyez l'intégration de Messi dans l'effectif?
Au niveau sportif, tu veux dire?
Ouais, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'on va avoir une équipe qui tourne autour de Messi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est impossible à dire quand t'as aussi Neymar, Mbappé dans l'équipe?
Disons que ça révolutionne vraiment les choses, parce que globalement depuis l'arrivée de Tuchel, qui avait replacé Mbappé du côté de Neymar, et par la suite qui avait même replacé Verratti de ce même côté à gauche, Paris avait un centre névralgique, on va dire, ou un barycentre comme on veut, vraiment axé sur le côté gauche. C'est là où on construit, c'est là où globalement tous les ballons passent, et voilà, le côté droit à utiliser à la rigueur pour renverser et pour finir. Ça se répartit un peu différemment quand Neymar est absent et que Di Maria prend une part un peu plus importante dans le jeu. C'est évident qu'avec Messi, tu vas avoir un rééquilibre du côté qui va se faire naturellement. Après, je pense pas que... Il faut reprendre un peu les chiffres qu'il y avait au Barça quand les deux cohabitaient, Messi et Neymar. Messi touchait un peu plus de ballons quand les deux jouent ensemble. Il n'y avait pas une différence de 40 ou 50 ballons. Donc je pense que malgré tout, tu peux réussir à équilibrer. Et c'est vrai que la question se pose, parce que Neymar est un peu devenu le Messi du PSG sur les 2-3 dernières années, en agglutinant beaucoup plus de ballons que ce qu'il faisait à Barcelone, et en redescendant aussi plus bas, en touchant des ballons dans les zones plus éloigné de celle de finalisation, comme contrairement à ce qu'il pouvait faire au Barça, où c'était moins sa responsabilité, on va dire. Donc forcément, ça pose quelques questions à ce niveau-là. Maintenant, je pense que l'arrivée de Messi, en termes philosophiques, entre guillemets, de philosophie de jeu, elle tombe de façon assez naturelle vis-à-vis de l'équipe. C'est-à-dire que contrairement à Chelsea ou à City, qu'on a pu citer comme possible destiné pour le joueur, ce sont des équipes d'entraîneurs, on va dire, des équipes vraiment mécanisées avec des circuits de jeu très marqués, qui n'ont pas forcément de vraies stars, mais globalement où les positions sont très respectées, sont assez fixes, assez figées. Paris, c'est pas ça, c'est beaucoup plus libre, on va dire, plus sud-américain. Les joueurs se déplacent un peu comme ils le sentent, comme ils vivent le football. Y a plus de place pour l'inventivité, pour la créativité, pour les permutations, pour les 1-2, pour ce genre de choses. Et Messi, je pense qu'il s'intègre assez facilement dans cette idée de jeu-là. Et pire que ça, il la renforce. Parce que Messi, un joueur qui va peut-être moins partir dans des chevauchées individuelles que Neymar, et qui va beaucoup plus jouer à 1 touche, 2 touches, ouvrir plus facilement le jeu, prendre aussi un peu moins de risques avec la balle. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ça en fait un complément hyper intéressant de tout ce qu'on a déjà. Et comme on a un peu effleuré le thème tout à l'heure sur la comparaison avec le Barça, il retrouve des profils qu'il a pas eu depuis très très longtemps. Un latéral qui dédouble dans son dos, comme il va avoir avec Hakimi, il n'a plus ça depuis Alves, mais les premières années d'Alves. Parce que déjà les dernières années d'Alves, c'était un joueur qui était plus impliqué à la construction, qui dédoublait moins, qui a plus un comportement de milieu ajouté. Pareil, un joueur comme Verratti qui est capable de lui, même Paredes, ils sont capables de le trouver entre les lignes dans une position un peu avancée. Mais vraiment plus ça à Barcelone, où tu le voyais saison après saison jouer de plus en plus bas. Évidemment, il va retrouver Neymar pour ses renversements de jeu un peu côté gauche. Bon, il n'aura pas Alba, on va voir comment Bernat revient. Mais bon, globalement, l'action de Messi pour Alba, qui était un peu le fil rouge de ces dernières années au Barça, c'était peut-être la dernière vraie routine collective du Barça qu'il leur restait en fait, et toutes les autres se sont un peu ternies et évanouies au fil des années. À Paris, il peut retrouver certains de ces aspects. Après, il faudra voir un peu la complémentarité avec Mbappé s'il finit par rester, et bon, ça on aura le temps de bien en débattre. Mais je pense que aussi bien à niveau philosophique qu'à niveau tactique, c'est une arrivée qui a du sens en fait. Et si on veut dire aussi pour les gamins qui vont aller au parc, qui vont voir les mêmes matchs du PSG, avoir aussi une équipe qui est plus une équipe de joueurs qu'une équipe d'entraîneurs, où les joueurs offensifs ont une liberté créative assez totale et peuvent faire sont des vrais génies du foot. Quand on parle de Neymar et de Messi, ils sont les deux génies du foot actuellement. C'est peut-être encore plus. C'est des aspects qui sont peut-être encore plus à même de séduire un jeune public, en fait. Et, parce que tu rêves pas devant je sais pas, un 3-2-5 de Chelsea bien quadrillé et un gegenpressing de Liverpool. Tu rêves parce que Messi aura fait une passe que tu n'avais pas vue à la télé, ou que Neymar aura dribblé 3 mecs en glissant un petit pont et un crochet. Donc c'est aussi pour ces raisons que tu vas attirer plus de monde aussi au stade, et que tu vas émerveiller aussi un jeune public, mais aussi nous. Enfin, il ne faut pas se le cacher. On est un peu de la génération qui a grandi et qui a vu toute la carrière de Messi, en fait. Et pour nous, ça représente quelque chose d'assez monumental dans l'histoire du foot et pour sa façon de jouer. Donc non, pour toutes ces raisons, j'ai pas trop de points négatifs à soulever. Évidemment, il y a toute la question sur le plan défensif, parce que
voilà. Qui vous voyez à la perte de la balle du coup?
Non, mais il y aura pas à la perte de balle, tu peux pas.
Il y a pas de perte de balle.
Non, mais si tu veux la perte de balle, tu peux pas imaginer une équipe qui va presser très bien si elle a Messi, Neymar, Mbappé dans son équipe. Évident que tu n'auras pas une équipe qui sera aussi bien réglée que Chelsea, que City, que Liverpool. C'est pour ça que je disais que ça ne sera pas une équipe d'entraîneur. Même si Pochettino est un adepte du pressing haut, des équipes très intenses, etc., c'est impossible de le faire à Paris. Messi, c'est un joueur qui va courir 6-7 km par match. Mbappé, on sait qu'il n'en branle pas une défensivement. Et Neymar, bon, peut-être qu'il sera un peu sacrifié comme au Barça en faisant le quatrième milieu, ce genre de choses. Mais tu sais que ça ne sera pas quelque chose de très intense et loin d'être le cas à tous les matchs.
Est-ce que ce sera le paradigme
un autre football. Tu vas jouer un autre football. Tu ne vas pas jouer le football que les équipes à succès déploient et jouent ces dernières années, forcément.
Non, par contre, on a une certaine expérience quand même dans le 7+3 à Paris depuis quelques années. Là, ça sera un peu son paradigme.
Je ne suis pas sûr de ça. Je pense même qu'on va jouer avec 4 attaquants en permanence, ou en tout cas 4 joueurs offensifs. Et j'inclus Wijnaldum dans les joueurs offensifs, vu que bon, je pense que son meilleur rôle, certes il est tout terrain, tu peux le mettre un peu partout au milieu, mais je pense qu'en milieu avancé il est plus intéressant. Je pense que le PSG doit prendre un parti pris assez clair, dans le sens où si tu penses pouvoir être équilibré défensivement, pas concéder 1 cm de terrain, presser comme un malade, et en même temps jouer un football de rêve, je pense que c'est une chimère, c'est une illusion et c'est pas possible. Par contre, l'avantage d'avoir autant de talents, c'est que tu peux en mettre énormément sur le terrain et les faire cohabiter, et il faut pas avoir peur de ça. Je pense que, par exemple, Unai Emery, qui avait sacrifié Di Maria à l'arrivée de Mbappé sur l'autel de l'équilibre, ça avait marché un temps, mais au final, bon, on n'était pas vraiment équilibré, pas plus que ça. Donc l'équilibre, c'est quelque chose de très très relatif, qui du coup, si tu joues qu'avec 3 attaquants, ça ferait un vrai 7+3, où tu as une équipe totalement segmentée entre des attaquants qui sont isolés devant et travaillent pas défensivement, et l'équipe de l'autre côté qui doit un peu s'époumoner pour écoper derrière. Je suis sûr que c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Je vois plutôt une équipe 100% orientée qualité technique, avec le plus de ressources possibles une fois que t'as la balle dans les pieds. C'est ce que Pochettino avait fait en arrivant, quelque chose qui s'était un peu estompé au fur et à mesure des semaines et des absences des uns et des autres. Et puis il avait un peu commencé sa revue d'effectifs en faisant jouer tout le monde. Mais là, à mon avis, il doit reprendre un peu le fil de cette première période parisienne qui avait été très intéressante, tant sur le plan du jeu que des résultats. On avait vu une équipe, comme Mathieu le décrivait, très originale, avec beaucoup de liberté, vraiment une troisième voie entre le football lent en possession et mécanisé et le football de marathonien et de pressing où tu cours partout tout le temps sans forcément pratiquer un jeu très flamboyant avec la balle. Le PSG peut et doit être une troisième voie, à mon avis. Quand tu as autant de talent, il faut les aligner, il faut s'en servir. Et si tu penses pouvoir être équilibré et pratiquer un peu le 7+3 avec des coureurs à pied, des milieux défensifs qui cavalent derrière les pertes de balles des attaquants qui seraient tout seuls devant, je suis pas sûr que ça marche et on a assez peu de preuves que ça puisse fonctionner bien. Sachant qu'au PSG, depuis 2017, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement et ça finit toujours... toujours assez mal et assez vite. Donc je pense que le PSG doit jouer avec en mettant ses meilleurs joueurs, ses attaquants. Je suis pas sûr que Di Maria se retrouve sur le banc automatiquement, par exemple. Pas sûr que Paredes non plus, ni même Verratti, ni aucun des autres. Je suis assez sûr que Pochettino va au moins tenter le plus possible de faire jouer les meilleurs joueurs ensemble. Et il faudra accepter de concéder des maîtres, il faudra accepter parfois de pas pourrir à toute vitesse sur les transitions. Mais bon, globalement, en Ligue 1, tu es capable de maîtriser les contextes, capable de maîtriser les choses, de garder le pied sur le ballon et de faire très très mal à l'adversaire. Et ensuite, en Ligue des Champions, on l'a vu plusieurs fois, dès que tu es responsabilisé, que tu es mis dans un influx nerveux et une tension qui est propre à cette compétition, tu es capable de te déplacer et de faire les efforts, même si ça doit être corrigé au bout d'un moment, à la 60e par exemple, parce que tu n'as plus de gaz. Et j'en veux pour preuve par exemple le PSG-Liverpool pardon, de 2018 où Tourelle ne flanche pas, il met les 4 attaquants ensemble et ça fonctionne super bien et tu ne concèdes rien. Et il y a eu d'autres matchs comme ça à 4 attaquants où ça a bien fonctionné. Donc je pense que le PSG doit prendre un parti pris, mais si tu veux faire trop de choses en ayant l'illusion d'être équilibré, je suis à peu près sûr que ça ne peut pas marcher.
Omar, tu partages l'optimisme de Simon ?
Ouais, plus ou moins. C'est sûr que du coup, l'incorporation de Messi, elle a plusieurs angles de lecture. Depuis quelques années, on voit un Messi qui est beaucoup plus enclin à la création. Du coup, qu'on n'hésitera pas à voir redescendre très bas et d'être quasiment au niveau de Verratti pour pouvoir ouvrir le terrain. Et je suis totalement d'accord avec ce que dit Mathieu. Là, Messi il va retrouver des profils de joueurs avec lesquels il a toujours aimé s'associer et avec lesquels il ne s'associait plus depuis longtemps. Enfin, on peut penser à Mbappé et à Hakimi, notamment, qui sont des joueurs qu'on arrive facilement à trouver lancés. Et on sait que les angles de passe que cherche Messi, bah, ils sont souvent dans le dos, ils sont souvent très fuyants et il affectionne tout particulièrement trouver ce type de joueur-là. Donc le premier écueil auquel tu vas te confronter, c'est une espèce de surpopulation axiale et un nombre important de joueurs qui par nature aiment être derrière le ballon parce que... Neymar est devenu ce type de joueur. J'ai un peu de mal à l'imaginer jouer les utilités sur un côté pour à l'hôtel de l'équilibre. Messi est ce type de joueur. Verratti, Paredes, potentiellement, ça fait beaucoup de lanceurs et très peu de receveurs. Donc, il va falloir je pense, je reprends le terme qu'a employé Simon et qui est quelque chose qui est très important pour moi, c'est vraiment avoir un parti pris et définir assez rapidement quel type d'équipe on veut être. Et ce type d'équipe, il ne pourra pas être plein et total, tel qu'on a pu le rencontrer, mais par contre, la responsabilité que ça donne à tous ces joueurs de talent, elle est immense. Parce que gagner, ça va être très normal. Quand t'alignes Messi, Neymar, Di Maria, j'en passe. Par contre, le style, les arabesques, la fantaisie et la qualité du jeu proposé, c'est quelque chose de... Enfin, il va y avoir un niveau d'intransigeance qui va être très élevé et qui est au moins proportionnel à la somme des talents. Alors, le talent donne beaucoup de droits, mais il donne aussi beaucoup de devoirs à ces joueurs-là, parce qu'on a vu que la théorie de l'interrupteur avait certaines limites, et il va falloir quand même avoir un standard de jeu et de qualité qui soit quand même très important, qu'on puisse retrouver des fois des samedis à 17h pour ne pas se confronter à un mur quand on va se trouver face à des oppositions plus élevées. Mais maintenant, c'est sûr que Messi te maximise énormément de biais du jeu parisien, notamment à la création, parce qu'on a toujours manqué d'un milieu qui était capable de projeter, d'intervenir en second rideau, mais s'il est capable de le faire en partant de plus bas, il est capable d'avoir des angles de passe qui sont irréels à n'importe quel endroit du terrain. C'est clairement le plus grand maître dans les 30 derniers mètres, pour le coup. Et ça, c'est une plus-value qui va être nette, claire sur l'équipe. Après, sur la compartimentation et sur les rôles, ça me paraît assez clair que le meneur de jeu, ça va être lui, et que ça va contraindre, et je mets de grandes guillemets, Neymar à être plus attaquant, à être aussi plus décisif dans son jeu, mais décisif dans l'aspect geste final. Non pas pour éliminer, ça il éliminera toujours des joueurs, mais maintenant c'est vraiment dans le geste final où on va encore plus avoir besoin de lui, et c'est un secteur où il a été en difficulté l'année dernière. Mais là, il a tout pour être heureux, en espérant qu'il évite les pépins, et c'est quelque chose dans lequel on devrait pouvoir le retrouver, parce qu'on ne pourra pas faire peser l'intégralité de nos buts dans la surface et lancer en profondeur uniquement sur Mbappé. Mais ça, c'est des choses auxquelles j'imagine notre staff argentin pense déjà fortement.
Alors, c'est un coup de booster aussi, l'arrivée de Messi, dans le sens où tu peux imaginer que Neymar qui raterait 50% de la saison, Verratti 50% de la saison. Bon, je ne vais pas dire qu'il y avait des blessures fictives l'an dernier, mais peut-être que tu fais peut-être un peu plus attention pour pouvoir jouer tous les matchs avec Messi. Ça peut être aussi un boost à ce niveau-là, et au niveau de la préparation, au niveau de l'envie de jouer tous les matchs, et l'envie aussi de se faire plaisir et de gagner les matchs quand tu joues en fin de semaine. Donc ça peut être aussi un booster au niveau de la motivation. Après, sur le plan tactique, Pochettino a peut-être donné quelques pistes face à 3. C'est un match dont on n'a pas fait le débrief, mais qui a été assez intéressant sur le plan tactique, avec beaucoup de changements, beaucoup de systèmes utilisés. Mais tu vois que son système de départ, son système de base, c'est un 4-4-2, donc comme le pressentait, comme semble vouloir être l'avocat Simon, où globalement Wijnaldum est utilisé à droite, mais on peut imaginer qu'il utilise à droite aussi en préparation plutôt d'un rôle de couverture pour Hakimi et pour Messi, qui vont jouer un peu dans ce rôle-là. On peut facilement imaginer Neymar jouer là où Draxler a joué dans ce 4-4-2, dans ce poste un peu axe gauche, qui était le sien sous Tourelle quand on jouait dans ce système. Et tu peux imaginer devant Mbappé et Messi. Donc c'est au fond assez facile de faire l'intégration en partant du schéma qu'a dessiné Pochettino sur le match face à 3. Donc c'est peut-être une piste de ce qu'entend faire le technicien argentin avec l'arrivée de Messi. Après, bon, au-delà des histoires de tactique, évidemment, il faudra trouver un équilibre, et dans le sens malgré tout une équipe qui soit capable de gérer dynamique défensive et offensive un minimum, c'est-à-dire qu'elle soit capable d'être compétitive dans ces phases de jeu-là. Au-delà des aspects tactiques, bon, enfin, tous ses coéquipiers l'ont dit au cours des interviews qu'ils ont pu faire tout au long de sa carrière. Messi, c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il rend les meilleurs les joueurs à côté. C'est-à-dire que les joueurs à côté semblent meilleurs quand ils jouent avec Messi. Parce qu'il est capable de les trouver dans des bonnes dispositions pour marquer des buts. Parce qu'il est capable de les trouver lancés, de leur faire des passes qui ne les mettent pas en difficulté, qui sont faciles à contrôler, ils n'ont plus qu'à se retourner, de les trouver dans les bonnes dispositions. Il n'y a pas de meilleur joueur du monde que Messi dans cette faculté-là à mettre ses coéquipiers dans les meilleures dispositions pour qu'ils jouent leur jeu, tout simplement. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer une intégration qui sera difficile, au moins sur la partie offensive. C'est un joueur qui doit rendre meilleur les autres. Et à l'heure où on parle beaucoup de l'avenir de Mbappé, je ne sais pas ce qu'il décidera. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il pourrait annoncer son départ à la direction la semaine prochaine. Mais bon, si je suis Mbappé, je pense aussi que c'est un garçon qui est intelligent, qui est aussi un peu individualiste. J'imagine combien de buts je vais marquer avec Neymar et Messi derrière moi. Il a même la possibilité de devenir la star du trio, parce que combien de face-à-face il va avoir par match avec Neymar et Messi pour l'alimenter, et pour alimenter lui, ses appels, sa vitesse de pointe, ça peut être quelque chose de complètement surréaliste aussi. Donc il y a beaucoup de joueurs qui peuvent profiter hein, de cette venue sur le plan sportif et sur le plan tactique.
Et alors vous n'êtes pas sans savoir que notre président Nasser Al-Khelaifi a fait beaucoup d'interviews à la suite de la signature de Messi, et il a notamment dit que ce plus grand mercato de l'histoire du football mondial n'était peut-être pas fini. Est-ce que qui selon vous pourrait renforcer cette équipe lors de ce mercato? Est-ce qu'il nous manque un profil ou deux qu'on pourrait très clairement voir arriver d'ici la fin du mercato d'été? Simon, par exemple.
Il s'est absenté un instant. Il est dans le nord.
Ouais,
non, mais en termes de profil, tu m'aurais posé la question il y a une semaine, j'aurais répondu clairement Paul Pogba. Ça me paraît toujours être une recrue qui pourrait avoir une plus-value immédiate. Mais maintenant, le fait qu'on incorpore Messi, je me demande si on n'a pas besoin d'un joueur offensif extérieur, en fait. Parce que qui aurait des qualités pour le coup de débordement, qui pourrait un petit peu rééquilibrer le côté, notamment parce que je pense qu'on va fixer Messi, Neymar et Mbappé dans la même zone, à savoir une zone axiale, et que du coup ça obstrue totalement l'horizon de plein de joueurs qui sont sur le banc aujourd'hui. Donc une upgrade à Sarabia par exemple, je pense que c'est quelque chose d'envisageable, du moins si j'étais aux responsabilités techniques du club. Mais si on veut aller au bout d'un mercato qui mêle compétences footballistiques, plus-value marketing et impact global, enfin, la signature toute trouvée, c'est clairement Pogba.
Ouais, après, je pense les yeux plus gros que le ventre, mais il y a quand même de bonnes chances que le mercato s'arrête là côté arrivée. Après, bon, il faudra voir les côtés départ. Il y a juste un point sur le nombre de l'effectif. C'est peut-être plus que la question financière, c'est peut-être ça qui pose problème à l'heure d'envisager d'autres recrues. Premièrement, pour la liste UEFA, il y a 17 places possibles de joueurs formés à l'étranger. Aujourd'hui, il y en a 20 dans l'effectif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de joueurs déjà à faire partir. Évidemment, Sergio Rico, bon, on va voir si on trouve une destination pour lui. Évidemment, Rafinha, je pense, est un peu bouché pour un joueur qui joue au même poste et qui est un peu meilleur que lui. Et Sarabia, un peu de la même façon. Donc, ce sont les trois noms qui arrive rapidement pour libérer la place de joueurs étrangers. Et après, bon, il faut voir. Si Kerrer part, j'imagine qu'il faudra le remplacer. Si tu veux prendre un latéral gauche qui remplacerait Kurzawa, si tu prends et que c'est un étranger, il faut virer un autre étranger de la liste. Enfin, c'est pas forcément évident à faire. Et le deuxième point, c'est aussi sur les feuilles de match. semble que les feuilles de match, c'est 20 joueurs en Ligue 1. Et donc, ça te fait 9 remplaçants. En tout, ça te fait 18 joueurs de champ. Aujourd'hui, je ne crois pas me tromper en disant que le nombre de joueurs de champ du PSG est proche de 30. Bon, tu enlèves un peu les jeunes, etc. Tu arrives, je pense, à 27 joueurs, 4 gardiens. Donc, sans compter Dina Ebibe, Fadiga, Kalimuendo, Simon Smichou, etc. Ça te fait énormément de monde qui peuvent rester hors de la liste, hors du groupe et en tribune pour peu qu'il y ait des retours. Alors peut-être pas ce week-end, mais dès le week-end d'après, tu peux avoir certains peuvent avoir quelques surprises hein, et se retrouver en tribune de façon assez impitoyable. Parce que quand si tout le monde est là, a priori on peut même imaginer récupérer Ramos, pas pour ce match, mais le match d'après. Bon, il n'y a plus beaucoup de place sur le banc. Donc malgré tout, avant d'imaginer d'autres recrues, il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs à faire partir et on verra si certaines pistes se débloquent pour plusieurs joueurs. Mais bon, quand certains ne seront pas inscrits sur la liste UEFA, quand certains vont enchaîner plusieurs semaines des matchs en tribune, bon, on va dire que les départs qui ne se feront pas à la fin du mois d'août se feront sans doute en janvier.
Alors pour toi, qui justement a le plus à perdre finalement de cette arrivée de Léo Messi à Paris et plus généralement du recrutement qu'on a réalisé tout au long de cet été?
Globalement tous les joueurs qui sont superflus à l'effectif. On a cité Rafinha, on a cité Sarabia. Forcément quand tu as Messi et Wijnaldum qui arrivent à ce poste là ils perdent forcément en importance. Sergio Rico à la porte grande ouverte après l'arrivée de Donnarumma et sans doute qu'un ou plusieurs défenseurs centraux, soit Kerr, que soit même Diallo si on recrute un arrière-gauche, peuvent aussi voir leur temps de jeu drastiquement fondre. De l'équipe titulaire, sans doute que Di Maria va jouer moins avec l'arrivée de Messi. C'est évident parce que c'est quand même un poste très similaire, même si les deux ont souvent été associés en sélection argentine, mais souvent au prix de déplacement et de replacement même pour Di Maria. Obligé de jouer un peu côté gauche. Après, alors que bon, il n'occupe plus vraiment ce poste depuis le Benfica. Donc, sans doute que lui va perdre en importance, va perdre en temps de jeu. Après, je pense que c'est sans doute que Messi est le seul joueur au monde pour lequel il serait prêt à accepter cela. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de gros problèmes de gestion à ce niveau. Évidemment, Pochettino, il devra être malin, il devra avoir un peu donné du temps de jeu à tout le monde, pas faire ce qu'avait fait Emery au moment de l'arrivée de Neymar et Mbappé, où globalement, il avait un peu ostracisé Di Maria en lui donnant 0 minute au Bernabeu notamment, on se souvient que ça avait posé un peu souci. Donc évidemment Pochettino il va être important dans la gestion et savoir donner un peu des sucres et des récompenses au moins aux joueurs sur lesquels il compte. Je pense pas que tout le monde puisse être satisfait au niveau du temps de jeu. Je pense qu'un joueur comme Icardi notamment, quand tu le recrutes l'an dernier, il est quasiment titulaire vu qu'on joue beaucoup en 4-4-2 et tu le prends pour être le numéro 9 d'accompagnement des trois autres offensifs. Aujourd'hui, c'est le cinquième joueur offensif d'une attaque qui sera sans doute à 3. Lui, il va perdre beaucoup en temps de jeu, a priori. Parce que même quand Mbappé ne sera pas là, est-ce que tu joueras vraiment avec un pur numéro 9? J'imagine que c'est plus Di Maria qui rentre en jeu et Messi qui prendra la bonne place de faux 9 à la rigueur pour équilibrer un peu tout ça. Donc, peut-être lui va vraiment souffrir de l'arrivée d'un joueur comme Messi et sans doute que d'autres aussi qu'on n'imagine pas encore parce qu'après c'est les dynamiques de la saison. T'imagines, tu commences la saison avec une équipe en tête et souvent ça elle change au cours de l'année en fonction des performances et du système qui marche le mieux sur le terrain. Mais ouais, tu peux déjà imaginer
que le PSG c'est pas le coach qui décide de l'équipe, c'est l'infirmerie.
Parce que maintenant ça va être un peu Messi aussi.
Infirmerie ou pas, est-ce que Simon tu vois un avenir à Icardi dans cette équipe, même
moins qu'avant forcément, parce que on a beaucoup parlé du côté Messi meneur, Messi créateur, mais moi j'aimerais insister surtout sur ses buts. Messi c'est souvent la plupart des saisons entre 50 et 60 buts, parfois plus, parfois moins. Au PSG t'avais énormément de mal à marquer des buts sans l'apport statistique de Mbappé ou tout simplement la présence sur le terrain de Mbappé pour ouvrir des espaces, faire marquer les autres. J'aimerais vraiment insister sur les qualités de buteur de Messi. Donc, si t'as que des joueurs techniques autour de lui pour l'entourer, alors évidemment, il pourra jouer un peu à sa guise et toucher des ballons, connecter avec les autres, créer du jeu, faire tout ce qu'il sait faire de merveilleusement bien. Mais il ne faut pas sous-estimer l'apport statistique sur les buts de Messi, qui justement viendrait devenir un peu peut-être le meilleur buteur du club devant Mbappé, ou en tout cas, j'espère le concurrencer, parce que tu en as besoin. De la même manière que si Icardi était parti pour jouer un peu plus de matchs, si Messi ne venait pas, tu avais besoin de ses buts. Vu qu'on sait que Neymar, il a un peu perdu, il a un peu du mal à être précis dans l'exercice depuis un petit moment, depuis peut-être la saison du Final 8, il faudrait resituer, mais globalement, il a un peu du mal, et à la Copa, c'était pareil. Mbappé, tu dois compter sur lui énormément. Di Maria marque régulièrement, mais c'est pas non plus quelqu'un qui te garantit un but par match ou un but tous les deux matchs. Donc globalement, Messi comme deuxième attaquant aux côtés de Mbappé, ça me paraît la meilleure position. Et les gens qui croient que tu peux mettre un 4-3-3 avec Messi ailier droit, ça fait quand même longtemps qu'il ne joue plus à ce poste-là. Auparavant, il n'y jouait pas vraiment sur les années de Guardiola. La dernière fois qu'il a joué ailier droit, c'était pour la finale de la Copa América, ou en tout cas qu'il s'était déporté côté droit une bonne partie du match, ça n'avait rien donné. Donc non, globalement, il faut plus imaginer Messi dans un rôle d'attaquant axial, de deuxième attaquant, comme dans le Barça de Valverde, qui est une équipe totalement incomprise et sous-estimée, en tout cas par ses contemporains. Donc non, je pense que avant tout, Messi, il t'apporte une décisivité qui est énormissime, et il faut le mettre en condition de mettre le plus de buts possible, même si ça peut peser un peu sur son côté Messi l'homme libre et Messi meneur de jeu. Mais à mon avis, avec Verratti, Paredes, Neymar et d'autres, t'as pas forcément besoin d'avoir Messi à 45 mètres du but.
Allô ?
Ouais.
Enfin, oui.
Ouais, pardon.
Ah, les autres avaient le micro coupé, excusez-nous.
Mathieu, t'es là ?
Ouais, non, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Simon. Après, Messi, il peut, quand il parle d'une position axiale, il vient souvent se mettre un peu axe droit pour trouver des angles de pas, justement, et alerter ses coéquipiers côté opposé. Donc, quand il parle d'une position axiale, mais c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que globalement, il peut être au début, au milieu, à la fin des actions. C'est ça qui le rend assez unique. Et ouais, c'est vrai que quand tu regardes ses statistiques, il y a une constance. Évidemment, je pense que l'année civile des 92 buts, c'est en 2012. Bon, on peut imaginer qu'elle restera intouchable, parce qu'à l'époque, Messi avait en plus une sorte d'explosivité, de capacité à construire des buts de très très loin, de partir en dribble, et une sorte d'autosuffisance qui lui permettait de scorer à volonté. Là, ça sera sans doute un peu moins le cas. Il s'est un peu recyclé en termes créatifs, et en sectionnant un peu plus ses efforts, en dribblant un peu moins. Mais malgré tout, il garde des chiffres de but très impressionnants, et c'est à chaque fois le Pichichi et le joueur marquant de la Liga. Donc non, pour toutes ces raisons, c'est vrai que l'apport statistique sera bienvenu, parce que je crois qu'on en avait parlé déjà la semaine dernière, notamment sur un débat sur Icardi. Ça a été difficilement tenable de garder Mbappé comme seule arme pour marquer. Donc voilà, Messi va porter ça, mais bon. Après, il y a toujours la question de comment tu peux intégrer avec les autres joueurs offensifs. Un joueur comme Mbappé, par exemple, faudra voir comment, ou plutôt s'il accepte, de voir son rôle de redéfini. Parce que si tu joues avec Messi et Neymar, tu joues avec deux joueurs qui vont toucher 90-100 ballons par match, grosso modo. T'as pas besoin de Mbappé pour dézoner et venir empiéter une zone des trois quarts du terrain. Il faudra sans doute qu'il revoie un peu son jeu. Et après, ça dépend un peu de ce que lui veut faire, en fait. C'est-à-dire, est-ce que lui veut devenir un buteur? Et je pense que s'il se refocalise à nouveau sur ce rôle, il a la capacité de marquer énormément, énormément de buts. Parce que, comme on l'a dit, derrière, il aura les ballons, forcément. Mais après, peut-être qu'il lui a envie de jouer un autre football, d'avoir peut-être une place plus importante dans l'équipe, de toucher plus de ballons.
Dans une équipe et... plutôt que dans l'équipe.
Ouais, en l'occurrence, ce serait une autre équipe, j'imagine. Mais bon, après, libre à lui de choisir. Hein. Je pense qu'il a plus à gagner en restant avec des pourvoyeurs de ballon qui sont exceptionnels et qui sont deux des trois meilleurs joueurs des 15 dernières années, d'aller nous refaire le cirque de l'Euro avec Benzema à tenter des 1-2 complètement sans aucun sens à 40 mètres du but sur le côté gauche pendant que personne ne joue dans la surface adverse. Donc ça, après, c'est un peu à lui de voir ce que lui a envie de faire personnellement. Et j'ai quand même ma petite idée sur ce qui sera plus efficace sur le plan sportif. Après, libre à lui de voir. Hein. Je pense que on pourra lui montrer quelques cassettes de Samuel Eto'o, de Luis Suarez. C'est des joueurs qui ont réussi à briller et à avoir leur part du gâteau, même avec Messi, Neymar, enfin, en l'occurrence, Messi, Ronaldinho et derrière eux, pour Eto'o. Donc, bon, à lui de voir maintenant, mais sans doute que ça va sans doute que ça peut rentrer dans sa réflexion aussi, mais il faudra qu'il accepte de pas être le centre de l'équipe, mais d'être plus une partie de sa finition s'il doit rester.
En parlant de responsabilité, vous pensez que Messi va récupérer les pénaltys et ou les coups francs, par exemple ?
Les pénaltys, je pense pas. Enfin, j'espère pas, parce que c'est pas forcément le meilleur tireur du PSG. Même Ramos est meilleur dans l'exercice. Il faudra voir entre Ramos et Neymar.
Je pense qu'il les aura malgré tout.
Ouais, c'est possible. Bon,
il fera la charité aux autres, comme il le faisait avant avec Neymar et tout ça.
Bah, le truc, c'est que Neymar va lui donner direct. En fait.
C'est
Neymar, je pense que c'est celui qui semble le plus content de l'arrivée de Messi. Je pense qu'il doit être dans une sorte d'extase depuis quelques jours. Donc, il serait même prêt à lui laisser les pénalties. Alors que Neymar est quand même en bonne réussite sur ce point. C'est un peu l'inverse sur les coups francs, par contre. Neymar est plus en difficulté depuis quelques temps sur les coups francs. Certains diront depuis qu'il a changé d'équipementier. Alors que Messi, globalement,
c'est Michel Platini.
C'est incroyable depuis 3 ans, on va dire, le nombre de coups francs qu'il marque. C'est hallucinant de toutes les distances, même de tous les, enfin, des deux côtés. Plusieurs fois dans le même match et des deux côtés différents. Donc, c'est sans doute. Au niveau des coups francs, tu risques d'avoir des coups francs directs de la part de Messi. Et je crois que Neymar ne l'a pas marqué l'année dernière. Donc, Di Maria, ouais, mais le Paredes aussi. Mais Neymar, non. Donc, pour les coups francs, ça sera une belle plus-value. Pour les pénaltys, je pense qu'on était déjà bien en stock.
Donc, tiens, attardons-nous un petit peu sur notre tireur de pénalty. Est-ce que finalement, pas sportivement par rapport à ce que va faire le PSG, etc., mais par rapport, disons, à sa carrière, à la légende Neymar, est-ce que c'est pas que l'arrivée de Messi, quand même, en un sens, c'est pas un peu un échec dans la carrière de Neymar ? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne derrière ? Parce que si Paris gagne la Ligue des Champions, ce ne sera pas Neymar, quoi. Ce sera Messi qui est arrivé dans l'équipe de Neymar et Mbappé.
Tu dis ça parce que, en partant du postulat, que la vérité, c'est qu'il est parti du Barça en 2017 pour sortir de son ombre et qu'il voulait une équipe pour lui. Et construire sa propre grandeur.
Voilà, c'est le storytelling qui a été quand même admis par beaucoup de personnes. Et c'est une réalité que Paris était voué à devenir son équipe, quoi.
Deux ans après, il voulait retourner.
C'était déjà mis à mal.
On a fait un peu vite le deuil, je pense, de cette volonté.
C'est sûr qu'on a. J'ai un peu occulté ce détail.
Non, mais t'as raison. C'est vrai que c'est une ambition peut-être qu'il a mise de côté lui-même. Je ne sais pas s'il a déjà eu cette ambition ou si on lui a prêté cette ambition un peu de l'extérieur, mais c'est vrai que ça avait un côté un peu romantique et symbolique assez fort de se dire que Neymar s'émancipait, reprenait une équipe dont il serait le leader. Comme il le fait magnifiquement au Brésil, et comme il l'a fait au Brésil en étant le chef de file de son équipe 20 ans et quelques pour une Coupe du Monde au pays, dans une ambiance délétère et avec une équipe pas terrible. Donc on s'imaginait qu'il pourrait le faire plus sur la durée aussi en club. Ça a été le cas parfois, ça n'a pas été le cas sur le long terme, on va dire, parce que aussi les blessures l'en ont empêché. Et son indisponibilité un peu conséquente et chronique, 50% de matchs ratés en 4 ans quand même. Forcément, tu ne deviens pas le leader.
Oui, mais après, si tu occultes les.
C'est un constat d'échec, je peux te rejoindre là-dessus. Hein.
J'ai envie de dire depuis deux saisons, parce que s'il y a deux saisons, c'est vraiment en 2019 où il nous a fait son sketch, où il voulait partir, il l'a même dit publiquement, etc. Depuis, on fait quand même, mine de rien, finale et demi-finale de Ligue des Champions. Donc, il était reparti sur des rails.
Il est très impliqué sur les matchs où on passe le tour en plus.
Voilà. Donc, au final. On voit qu'il est heureux, Neymar, c'est ce qu'on nous dit aussi, etc. Mais finalement, il sera jamais la légende que certains ont voulu nous vendre.
De manière très très factuelle, il aura jamais pris le Ballon d'Or ou la Ligue des Champions sans Messi. Ça déjà, c'est admis. Par contre, est-ce que c'est exact qu'il voulait absolument s'émanciper de l'ombre de Messi, alors que bon, globalement, ça a été son partenaire de jeu préféré en 2019. Il y avait eu le vrai faux retour à Barcelone, qui lui avait attiré un peu les foudres des supporters et de certains observateurs. Depuis, il s'est un peu racheté une image publique pour les supporters, même s'il a loupé beaucoup de matchs, qu'il a eu une saison très difficile l'année dernière. Neymar, malgré tout, malgré même l'arrivée de Messi, je pense que dans un gros match de Ligue des Champions où il n'y a plus d'oxygène et il faut choper le match par la peau du cou et faire avancer les choses, je pense que Neymar est bien plus capable de le faire que Messi ou voire même un peu Mbappé, qui est capable de le faire aussi, mais peut-être dans des proportions moins folles et pas dans le même style. Donc là, Neymar, certes, il n'aura jamais gagné le Ballon d'Or, ou en tout cas à l'heure où on parle, et la Ligue des Champions sans Messi. Par contre, là, il a l'opportunité d'être le meilleur joueur de l'équipe avec son partenaire de jeu préféré, voire les deux, vu qu'il a une vraie complicité qui parfois est un peu gênante, mais bref, il s'entend bien avec Mbappé sur le terrain. On peut imaginer, comme on vient de nous poser la question, qui prennent un peu plus soin de lui et qui mettent un point d'honneur à démarrer plus de rencontres maintenant que Messi a rejoint l'effectif parisien. Globalement, c'est difficile de l'imaginer faire une moins bonne saison que l'année dernière où il n'a jamais joué. Quand il a joué, sauf exception, il n'était pas en forme, à part quelques masterclass en Ligue des Champions qu'il ne faut pas passer sous silence parce que globalement, c'est un joueur qui prend feu sur les grands moments, il ne faut pas l'oublier. Là où peut-être Messi a eu plus de mal à le faire depuis 2015, pas tout le temps en tout cas. Et donc Neymar, globalement, il va être dans des bonnes conditions pour évoluer, je pense. Ça va peut-être lui remettre un peu la tête à l'endroit, mais de la même façon que Messi, à mon avis, jouera dans des meilleures conditions au PSG qu'au Barça. Donc on va retrouver un duo qui a déjà marqué l'histoire du football, à voir s'ils peuvent atteindre un peu le même potentiel, la même plénitude que quand ils avaient 29 ans et 23 ans. Donc on va voir, mais en tout cas, c'est prometteur et effectivement, peut-être que ta deuxième meilleure recrue après Messi cette année, c'est pas Hakimi ou Ramos ou Wijnaldum, c'est peut-être Neymar. Parce que si Neymar retrouve peut-être pas son meilleur niveau, mais en tout cas un très bon niveau, pour moi, il est le meilleur joueur de l'équipe.
Devant Messi.
Devant Messi, en tout cas dans les gros matchs, ça c'est sûr, mais surtout dans la capacité à animer l'équipe de manière beaucoup plus intense que Messi, qui a tendance quand même à jouer en marchant et à faire des coups d'éclat plutôt que vraiment tordre les matchs dans tous les sens de la manière que Ney est capable de le faire.
Pour toi, ça reste l'équipe de Neymar? C'est lui qui personnifie?
Je sais pas si ce sera l'équipe de Neymar, mais il a l'opportunité d'être le meilleur joueur de cette équipe-là. Ouais.
Vous êtes d'accord, Mathieu et Omar? Neymar peut enfin passer le palier qu'il est censé passer à Paris et toucher son meilleur niveau?
Ça sera à surveiller, parce que ce qu'on a souvent dit de Neymar, c'est que quand il prenait l'équipe en main, parfois il le faisait à un rythme où globalement les joueurs derrière lui ne pouvaient pas suivre. C'est-à-dire qu'il partait dans des actions individuelles parfois brillantes, mais où il était très peu suivi. Et globalement, ça se traduisait par des pertes de balles dans une équipe qui devenait de plus en plus longue, des transitions défensives qui devenaient de plus en plus dangereuses, et des distances qui vraiment devenait impossible à soutenir pour le reste de ses partenaires. Donc il faudra voir comment il intègre, on va dire, ce retour de Messi, parce que tu as un deuxième meneur de jeu à côté, mais c'est un deuxième meneur de jeu qui a plus le même âge qu'il avait quand ils jouaient ensemble au Barça. Donc je pense que Messi peut plus soutenir un rythme de transition vraiment très rapide, vraiment jouer sur des espaces très très longs et des distances très étirées, alors qu'en 2015, malgré tout, il pouvait encore le faire. Il y avait évidemment d'innombrables exemples de buts. Et en 2015, il avait quoi? Il avait encore 27-28 ans, quelque chose comme ça. Et on se souvient du Barça de Luis Enrique, qui était d'ailleurs un Barça qui procédait beaucoup en transition, sur les gros matchs notamment. Donc là, Messi a évolué, sans doute qu'il a plus besoin que son équipe soit installée dans le camp adverse, donc qu'elle prépare ses actions de façon un peu plus placée, un peu plus prudente et lente. Il faudra voir comment Neymar s'adapte aussi à ces volontés-là, que t'es pas tes deux meneurs de jeu qui jouent une partition qui soit séparée, on va dire, ou qui soit pas alignée. Qu'il y en ait un qui veuille un rythme trop effréné et l'autre qui ait besoin au contraire d'un rythme plus de mise en place pour pouvoir faire mal sur attaque placée. Donc ça sera intéressant à suivre. Comment t'intègres Mbappé à tout ça? Parce que évidemment lui, c'est l'attaque la plus directe possible et dès que tu reçois la balle, il faut lui mettre directement en profondeur parce que c'est une arme complètement létale et qu'il n'y a pas d'équivalent. Et même les défenseurs en face sont généralement pas équipés pour défendre des grandes surfaces et des grandes distances face à lui. Donc, il faudra voir comment ces profils se mêlent, notamment dans le choix du rythme et du tempo que tu veux faire adopter à ton équipe et lors des matchs. Ça sera intéressant à suivre. Après, bon, si tu dois jouer un match, une rencontre, des actions de transition rapide, Messi capable de te faire une passe de 40-50 mètres dans l'espace pour Mbappé et de le mettre face à face avec le gardien adverse, hein, sans problème, et sans doute mieux que personne. Donc, bon, il faudra voir comment tout ça se mélange. Je n'ai pas forcément de doute a priori, mais malgré tout, ça nécessite quelques adaptations et quelques matchs sans doute pour que tout se comprenne.
Omar, tu vois Mbappé meilleur buteur européen s'il reste à Paris?
Sans problème. Sans problème. Enfin, je ne sais pas si la course a... Si les trois joueurs ont juste pour optique de prouver à chacun des trois que c'est lui le meilleur, je pense que c'est l'autoroute vers un mur qu'on prendra de plein fouet. Par contre, s'ils sont dans une logique vraiment d'association, et je pense que Neymar, et d'ailleurs ne s'en est jamais caché, il est absolument fan absolu et transi de Messi, peut vraiment générer quelque chose de rarement vu, et ça durera peut-être qu'un an, mais la combinaison des trois, l'association des qualités de vitesse, de technique, de virtuosité, d'inventivité, ça peut donner quelque chose d'absolument dantesque. Et ouais, Mbappé, il peut marquer 60 buts sans coup de pied arrêté avec des offensives pareilles autour de lui. Donc, si tant est qu'il reste, en tout cas, pour ma part, je l'espère, mais c'est un truc à vivre. C'est un truc à vivre et c'est beaucoup de responsabilité. Donc, ça laisse augurer de quelques belles goléadas, de passes qui sont d'un autre monde, et on espère voir ça au parc, voir ça sur tous les terrains que le PSG foulera l'année prochaine pour qu'on puisse vivre ces grands accomplissements.
Mathieu, j'imagine que tu partages cet avis et que tu attends qu'une chose, c'est de voir Mbappé devant Messi et Neymar.
Bah forcément, après, ce sera sa décision à lui. On attend un peu le verdict, même si on s'imagine que c'est pas forcément en faveur du PSG à l'instant T. Il faudra qu'il fasse ses calculs. Il décide aussi avec quel joueur il veut être entouré. C'est un peu toujours la même question. Et bon, après, je sais pas, je suis pas dans sa tête, hein, les éléments qu'il prend en compte pour sa réflexion. J'imagine qu'il y a aussi une forte part de se dire qu'il peut être le successeur de Cristiano Ronaldo, mais là, on serait quand même tenté de le mettre en garde et de lui dire que jamais de la vie, il risque de faire aussi bien que Cristiano Ronaldo au Real. Mais bon, on verra, on attend sa décision. Il y a beaucoup d'informations en ce moment qui disent que lundi, a priori, il annoncerait ce qu'il veut faire. Je sais pas si ça sera public, mais on peut imaginer qu'il le dise à sa direction. En tout cas, c'est la Gazzetta, hein, qui l'a annoncé en premier. C'est pas un expert mercato un peu frauduleux et complètement pas fiable que de la Gazzetta qui l'a annoncé. C'est le correspondant à Paris de la Gazzetta, Alessandro Grandesso, que vous avez dû entendre lors de la conférence de presse de Messi poser la question sur Verratti à la fin. C'est quelqu'un de sérieux. Donc, quand il dit que Mbappé doit annoncer sa décision à la direction lundi, en théorie, c'est qu'il a suffisamment d'informations qui lui laissent penser que ça sera le cas. Après, les plans peuvent changer ou quoi, mais en tout cas, c'est une information sur laquelle on peut se baser et qui peut être sérieuse. Donc, on verra si c'est vraiment le cas et quelle est sa décision. Et voilà, après, on fera avec et on verra aussi comment réagira QSI si jamais Mbappé dit qu'il veut partir. Donc, ça, ça sera un peu, ça va nous occuper sur les prochaines semaines. Et oui, on espère que Mbappé se rendra compte qu'il a la chance d'entrer dans l'histoire, peut-être pas en étant la star d'une équipe, mais entrer dans l'histoire en étant membre d'un trio qui marque les esprits, tu peux le faire aussi. Tout le monde se rappelle de la MSN.
Simon, si on n'a pas droit à cette saison enchantée avec nos trois étoiles, est-ce que tu qui est-ce que tu verrais pouvoir prendre la place de Mbappé?
Personne. Je suis pas sûr que si Mbappé part ces prochains jours au Real Madrid, je suis pas sûr que tu ailles le remplacer. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'équivalent, il n'y a pas vraiment d'opportunité de mercato clair à ce niveau-là. Certains diront Erling Haaland, mais je ne suis pas sûr qu'il soit sur le marché cet été, même à peu près certain. Je pense que tu fais sans, tu remets Di Maria, tu occupes la surface avec Wijnaldum, tu peux redonner une énième chance à Icardi de se refaire la cerise. Donc, t'es pas une équipe sans ressources non plus. Forcément, tu serais moins fort, tu serais beaucoup moins intimidant en Ligue des Champions, parce que globalement, Mbappé en Ligue des Champions, il a tendance à créer beaucoup de panique pour la défense adverse et dans les plans de jeu adverses. C'est-à-dire que tu peux pas laisser trop de profondeur face à Mbappé, sinon ça peut très très mal se finir. Donc ce serait évidemment une énorme perte au niveau sportif. Mais bon, s'il part, tu le remplaces pas. Et bon, je pense que tu as de quoi faire sur toutes les compétitions et de quoi être compétitif à tous les matchs.
Omar, tu vois ça aussi d'une manière un peu... On remplace pas Mbappé, quoi. Voilà ce que je veux dire. Enfin, pas très excitante, on va dire.
Non, on le remplacera pas. Je pense pas que ce soit une opération prévue pour cet été, tant en termes de profil que de faisabilité. Je pense pas que ce soit quelque chose de faisable. Et si jamais il décidait de s'en aller, comme on est lié par un contrat, on est tout à fait en droit d'estimer que la libération de ce contrat aura lieu au 30 juin prochain. Et d'ailleurs, je pense que sportivement, aucun autre joueur ne peut te donner autant de garanties immédiates que Mbappé. Donc il faut le conserver, il faut se donner une chance d'être victorieux à Saint-Pétersbourg en mai prochain. Et je pense que cette chance est plus grande avec Mbappé qu'avec un autre.
Ciao.
Salut tout le monde.
Ciao.
Ciao, bonne nuit, bisous.
Attention.